l'écoute de RFI, il est 20h ici à Paris. Il est 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Mathis Lemano.
Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, eh bien, on cherche des explications en Espagne et au Portugal au lendemain de la panne massive d'électricité.
Ah oui, le gouvernement et la justice espagnole ont annoncé des enquêtes au Portugal. On veut aussi comprendre les raisons de ce blackout. Dans les deux pays où la situation est revenue à la normale, on continue d'écarter l'hypothèse d'une cyberattaque.
Et puis le dossier du jour qui sera consacré au nouveau Premier ministre du Canada, c'est officiel.
Il assurait déjà l'intérim. Marc Carney prend donc les rênes du Canada, une victoire des libéraux en partie due à la menace Donald Trump. C'est ce que nous expliquera Nicolas Rocca dans un instant. Romain, Donald Trump qui fêtera demain ses 100 jours à la Maison Blanche.
Oui, et à suivre après ce grand journal du soir, notre dossier consacré à cette actualité. On va appeler nos collègues du journal suisse Le Temps qui évoquent eh bien, l'aspect hors norme de ce début de mandat, le nombre de décisions qui ont été prises, les contestations par la justice là aussi qui sont inédites, et puis les perspectives que tout cela annonce.
Enfin, le choc Arsenal-PSG en demi-finale de Ligue des Champions, c'est dans moins d'une heure. Cédric d'Oliveira, vous êtes en direct de Londres à l'Emirates Stadium.
Oui, bonsoir, effectivement, vous l'avez dit, première demi-finale aller de la Ligue des Champions ici dans l'antre des Gunners pour ce duel indécis entre l'équipe de Mikel Arteta et celle de Luis Enrique, coup d'envoi dans une heure.
Merci Cédric de Oliveira, et bon, on se rejoint donc à 19h, temps universel pour Arsenal-PSG.
Après l'urgence vient le temps des explications en Espagne et au Portugal. Le gouvernement espagnol a annoncé une commission d'enquête.
Objectif, définir les causes de la méga panne d'électricité survenue hier. Et alors que les deux pays écartent l'hypothèse d'une cyberattaque, la justice espagnole décide tout de même d'ouvrir une enquête sur un éventuel sabotage informatique. Le voisin portugais cherche lui aussi des explications. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
Pour le chef du gouvernement portugais, son pays a subi la panne électrique espagnole car le Portugal était relié au réseau du pays voisin au moment de la surchauffe. Luis Montenegro veut des explications, il a saisi l'Union européenne.
En premier lugar, nous avons tout d'abord décidé de demander à l'Agence de coopération des régulateurs d'énergie de l'Europe de mener une enquête indépendante sur les systèmes électriques des pays affectés pour établir les causes de cette situation. Nous avons besoin de réponses urgentes et rapides et nous allons aussi créer une commission technique indépendante, commission qui sera chargée d'évaluer les mécanismes de gestion mis en place pendant la crise, la résistance et la récupération du système électrique, ainsi que la résilience des structures et services critiques.
Critiqué sur la dépendance énergétique du Portugal, le chef du gouvernement a réaffirmé la souveraineté de son pays en la matière. Mais à l'initiative du Parti communiste, la question sera débattue à l'Assemblée nationale. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
En Espagne, les autorités font état de 3 morts en Galice, dans le nord-ouest, des décès probablement en lien avec la mégapanne.
Allez, on en vient au dossier de ce grand journal du soir et il nous emmène au Canada où l'on dispose. Ça y est, de résultats, elle est quasi définitive.
Oui, le décompte vient de reprendre et le Parti libéral va donc rester au pouvoir, mais en échouant à 4 sièges de la majorité absolue. Majorité fixée à 172. C'est l'ancien dirigeant de la Banque centrale, Marc Carney, premier ministre depuis mi-mars, qui va continuer à diriger le pays. Nicolas Rocca, bonsoir.
Bonsoir Mathis.
Il y a encore quelques mois, sa formation politique était très en retard sur les conservateurs dans les sondages, mais finalement, le Premier ministre canadien semble avoir bénéficié de la volonté constante de Donald Trump de s'inviter dans la campagne.
Oui, car en plus de sa guerre commerciale, le président américain a martelé encore le jour du scrutin sa volonté de voir le pays devenir le 51e État des États-Unis. Une stratégie loin d'être payante, il a fini par faire l'unanimité contre lui. La participation a été en forte hausse. Le candidat conservateur Pierre Poilievre a lui perdu son siège de député et a fini par s'opposer clairement au président américain en prônant l'unité du Canada. Marc Carney, de son côté, a réussi à refaire un retard de plus de 20 points dans les sondages et ce malgré de nombreuses erreurs durant la campagne. Il a séduit en s'affichant en résistant face à la menace Trump, une posture qu'il a continué de soigner devant ses soutiens réunis à Ottawa pour célébrer la victoire ce mardi.
Lorsque je m'assiérai avec le président Trump, ce sera pour discuter de la future relation économique et sécuritaire entre deux nations souveraines. Et ce sera en sachant parfaitement que nous avons beaucoup, beaucoup d'autres options que les États-Unis pour construire la prospérité de tous les Canadiens.
Nicolas, quelles sont les autres options qu'il envisage pour l'avenir économique du Canada ?
eh bien promouvoir le marché intérieur, notamment en levant les barrières douanières entre les différentes provinces canadiennes, mais aussi en partant à la recherche de nouveaux partenaires économiques comme l'Union européenne, des solutions qui risquent d'être sans résultat à court terme alors que le Canada exporte les trois quarts de sa production aux États-Unis. Mark Carney va d'ailleurs parler rapidement avec Donald Trump, car le Premier ministre a conscience qu'il hérite d'un contexte économique très compliqué. Catherine Ouellet, professeure adjointe de sciences politiques à l'Université de Montréal, était l'invitée de la mi-journée de RFI.
La situation économique au Canada est assez difficile, je dirais même depuis la COVID. Hein. Des vagues inflationnistes, une montée du panier d'épicerie, une crise de logement, beaucoup de jeunes qui font la croix sur le projet d'être propriétaire à court terme. On est extrêmement imbriqués économiquement avec les États-Unis, ça ne se défait pas du jour au lendemain. Donc c'est certain que sur le plan économique, je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens et Canadiennes, surtout de la classe moyenne, qui sont très craintifs. Il y a des risques de récession aussi, donc c'est pas une situation qui est facile.
Autre grand chantier, celui de la défense, un secteur où le Canada se repose aussi très largement sur les États-Unis.
Le dépouillement du scrutin est donc toujours en cours, on le disait, mais on semble se diriger vers une majorité relative. Comment Mark Carney compte-t-il gouverner pour tenter d'appliquer ses réformes?
Il devra trouver des alliés de circonstance, notamment du côté du Bloc québécois, parti indépendantiste et central démocrate. Mais Mark Carney a un avantage, l'objectif de bloquer les projets de Donald Trump pour le Canada semble désormais faire l'objet d'un consensus transpartisan.
Merci beaucoup Nicolas Roca.
Amnesty International tire la sonnette d'alarme. Les droits humains n'ont jamais été autant bafoués partout dans le monde. C'est ce que révèle un rapport rendu public ce mardi.
L'ONG pointe particulièrement la situation dans la bande de Gaza où le monde assiste à un génocide en direct. Mensonge, répond la diplomatie israélienne. Ce qui est certain, c'est que cela fait presque 2 mois qu'Israël bloque totalement l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. La famine comme arme politique, c'est ce que dénonce l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Jérémy Lanche.
2 mois de blocus ont totalement vidé les entrepôts d'aide humanitaire de la bande de Gaza. La nourriture, l'eau, les médicaments. Depuis la fin du cessez-le-feu, les prix ont augmenté de 1400%. Les cuisines collectives, dernier rempart contre la famine généralisée, ferment désormais les unes après les autres, explique la porte-parole de l'UNRWA, Juliette Touma.
Le blocus, ça veut dire que des familles entières, on parle de 7 ou 8 personnes souvent, sont obligées de partager une boîte de haricots secs. Imaginez que vous vivez dans un endroit où vous n'avez rien à donner à manger à votre enfant et que vous le voyez mourir de faim. Voilà à quoi ressemble Gaza. Le blocus tue, mais de manière silencieuse.
The siege is a silent killer.
5000 camions remplis d'aide attendent toujours désespérément de pouvoir rentrer dans Gaza. Des dizaines de milliers auraient dû pouvoir le faire depuis 2 mois. Quant au personnel de l'UNRWA, il est toujours pris pour cible. Depuis le 7 octobre 2023, une cinquantaine d'employés ont été détenus par les autorités israéliennes et soumis à des traitements inhumains, selon les mots du patron de l'UNRWA. Un chiffre à mettre en parallèle avec les près de 300 membres de l'agence tués depuis le début du conflit. L'UNRWA admet elle-même avoir de la peine à les compter. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Et puis cette information de dernière minute, une fusillade a éclaté en Suède à une 60aine de kilomètres de Stockholm dans la ville d'Uppsala. Le bilan provisoire est de 3 morts selon la police. Un suspect se serait enfui en scooter d'après des médias suédois.
Il est 18h, bientôt 9 minutes en temps universel, et c'est le grand journal du soir sur RFI avec Mathis Limano. Mathis, cette première à présent, la France qui directement accuse la Russie d'être à l'origine de cyberattaques contre des intérêts français.
En 2015, une chaîne de télévision, la campagne 2017 d'Emmanuel Macron et plus récemment les Jeux Olympiques, autant de cyberattaques attribuées aux renseignements militaires russes. Et avec leur intensification, Pierre-Olivier, Paris a donc décidé de rendre publiques ces informations.
Sur X, Jean-Noël Barrot est on ne peut plus clair. Je cite, le service de renseignement militaire russe, le GRU, déploie depuis plusieurs années contre la France un mode opératoire cyber-offensif appelé APT-28. APT, un acronyme signifiant menace persistante avancée déjà bien connue des Américains et des Européens. Selon le Quai d'Orsay, ce mode opératoire a été utilisé en 2015 pour saboter la chaîne TV5 Monde pendant plusieurs jours. En 2017, en pleine campagne présidentielle, des milliers de documents avaient été volés à l'équipe du candidat Emmanuel Macron avant d'être diffusés en espérant manipuler les électeurs sans finalement y parvenir. L'année dernière, les Russes auraient également ciblé une organisation sportive liée aux Jeux Olympiques à Paris. Le Quai d'Orsay assure par ailleurs qu'APT-28 est utilisé quotidiennement pour exercer une pression constante sur les systèmes informatiques ukrainiens. La France dit avoir décidé de rendre publiques ces informations face à l'intensification croissante de la menace hybride russe.
Pierre-Olivier, pendant que les efforts diplomatiques se multiplient pour aboutir à un cessez-le-feu, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit débuter dans moins de 2 heures. Ukraine et Russie se sont mutuellement attaqués avec des drones explosifs la nuit dernière, tuant 3 civils. En Ukraine, un ordre d'évacuation a été émis à 100 d'habitants de la région de Dnipropetrovsk en fin de journée.
En Asie, l'escalade qui se poursuit entre New Delhi et Islamabad après l'attentat meurtrier dans le Cachemire indien qui avait fait 26 morts, c'était mardi dernier.
Une attaque attribuée par l'Inde au Pakistan, dernière escalade en date. Le dangereux feu vert donné par le Premier ministre indien Narendra Modi à ses forces armées pour riposter comme bon leur semble. Le chef de l'ONU dit avoir plaidé auprès des deux parties pour éviter la confrontation.
Et puis la question qui se pose à Malte, est-ce que c'est bientôt la fin du système des passeports dorés ?
La Cour de justice de l'Union européenne l'a en tout cas jugé illégal. Ce système permet à de riches investisseurs d'obtenir la nationalité maltaise et donc européenne, en échange de paiements très élevés, plusieurs centaines de milliers d'euros. Altin Lazage, les autorités maltaises ont annoncé prendre acte de la décision de la Cour.
Le système permettait à une personne ressortissante d'un pays tiers d'obtenir la nationalité maltaise en échange d'un investissement d'au moins 600 000 euros. Une manne financière non négligeable pour l'archipel qui évalue à 1,4 milliard d'euros les revenus tirés de ce dispositif depuis 2015. Sauf que pour la Commission européenne, un tel programme porte atteinte à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ces passeports permettent de circuler et de s'installer librement dans les 27 États membres. C'est pourquoi la Commission avait saisi la plus haute juridiction de l'UE en septembre 2022 pour demander son interdiction. Bruxelles avait aussi lancé une procédure d'infraction contre le système de passeport doré à Chypre et en Bulgarie. Les deux pays ont accepté d'y mettre fin avant qu'une procédure judiciaire ne soit ouverte. Les passeports dorés étaient pointés du doigt par l'ONG Transparency International pour laquelle ces programmes offraient un passeport européen à des personnes corrompues.
Altin Lazage, service Écho de Radio France Internationale.
20h12 ici à Paris, l'actualité en France, les réquisitions qui sont tombées contre l'ancien Premier ministre François Fillon.
Définitivement reconnu coupable, notamment de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Ce mardi, l'avocat général a requis 4 ans de prison avec sursis, ainsi que 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. La décision sera rendue le 17 juin.
Et puis le retour d'une des plus grandes voix de la salsa cubaine.
Il s'appelle Isaac Delgado, de la salsa cubaine. Donc, il revient avec un nouvel album, une tournée et un single, rien que ça. Le tout en playlist RFI. Hugo Casalino l'a écouté pour nous.
Connaissez-vous la timba ? La timba, vous venez de l'entendre, c'est cette salsa cubaine qui s'est vue modernisée fin des années 80 grâce à l'introduction de la batterie, des synthétiseurs, mais aussi des rythmes funky et jazz rock. Originaire de La Havane, Isaac Delgado est devenu le chanteur incontournable de cette timba, portée par des groupes comme Enrique La Banda, avec qui il a chanté, ou Los Bamban. On n'entend plus parler de lui depuis 2010, mais sans que cela entame sa popularité. La preuve en est, il gagne un Grammy il y a 3 ans avec un magnifique album Hommage au Cha-Cha-Cha, album coécrit avec la Orquesta Aragón et son acolyte de toujours, le bassiste Alan Pérez. Il revient avec un nouveau projet prévu pour la fin du mois, Mira Como Vengo, un album qu'il défendra lors d'une tournée, notamment en France cet été, dans différents festivals. Isaac Delgado, Alain Pérez. Premier extrait en playlist RFI de ce nouvel album, le single très timba justement, Tu Pensabas, toujours avec son compère Alain Pérez. Une playlist que vous retrouvez comme toujours sur RFI.fr et sur toutes les plateformes musicales.
mientras yo descansaba, tú buscabas consuelo.
Yo durmiendo lo presentía.
La salsa cubaine d'Isaac Delgado, donc sur RFI Musique.
Et on file et écouter la playlist, enfin après, la suite de RFI Soir, évidemment. Merci beaucoup Mathis Limano pour ce grand journal du soir sur RFI.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Oui, attendez un peu avant de consulter la playlist RFI.fr parce qu'on a un beau programme dans les prochaines minutes. Notre dossier à la veille des 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. On va appeler nos collègues du journal suisse Le Temps qui évoque l'aspect totalement hors norme de ce début de mandat, le nombre de décisions prises par Donald Trump, leur contestation de ces décisions par la justice, qui sont là aussi inédites, et puis toutes les perspectives que ça annonce. Et puis, nous irons ensuite dans le Kentucky. C'est l'état d'origine de J.D. Vance, bien plus que dans la simple ombre de Donald Trump, le vice-président américain, dans les montagnes des Appalaches, où l'on espérait bien que le destin de J.D. Vance entraînera de nombreuses retombées économiques. Mais pour l'heure, l'actualité ce soir, c'est aussi les sports. Et ça, c'est avec Saliou Diouf. Bonsoir Saliou.
Bonsoir Romain.
Alors oui, parce que le Paris Saint-Germain, évidemment c'est du football, a rendez-vous ce soir avec l'histoire.
Et une histoire qui s'écrit dès ce soir à Londres. Le club de la capitale affronte Arsenal pour son quart de finale aller de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 19h, temps universel. Les Parisiens n'ont plus qu'une étape à passer pour jouer la finale à Munich fin mai. Une rencontre que vous pourrez suivre sur RFI avec Cédric De Oliveira en direct de l'Emirates Stadium à Londres. Bonsoir mon cher Cédric. Connaît-on les joueurs qui vont débuter ce match ce soir ?
Eh bien bonsoir Saliou, bonsoir Romain. Effectivement, on connaît la composition du PSG. L'incertitude, elle était eh bien plutôt sur les attaquants, à savoir si Bradley Barcola ou Désiré Doué allaient débuter cette rencontre. Eh bien, ce sera le plus jeune des deux, Désiré Doué, qui avait marqué notamment au match aller face à Aston Villa. Il sera accompagné d'Ousmane Dembélé et du géorgien Kvaratskhelia. Pour le reste, c'est du grand classique. Donnarumma dans les buts, le marocain Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes en défense. Et puis le milieu à trois, composé de Fabien Ruiz, de Vitinha et de João Neves, les deux portugais côté Arsenal. Il y a aussi des absents et notamment celle, eh bien, l'absence de, du Ghanéen Thomas Partey. Conséquence, Mikel Arteta a remodelé son milieu de terrain. Ce sera Mikel Merino, l'Espagnol, qui sera associé à Declan Rice et Martin Odegaard, le Norvégien. David Raya dans les buts, Timber, Saliba, le Français, Kivior et Lewis Kelly en défense. Et puis devant, Bukayo Saka, le Brésilien Martinelli, et puis Leandro Trossard, le Belge, qui profite donc de l'absence de Partey et eh bien, du remplacement de Merino pour être titulaire devant le Belge qui avait marqué face à Crystal Palace. Voilà les dangers pour le Paris Saint-Germain. Saka, Martinelli et Trossard sur le front de l'attaque d'Arsenal. Le match va démarrer dans un peu moins d'une heure.
Merci Cédric De Oliveira. On vous retrouve dans l'intégrale qui démarre dans quelques minutes. Prise d'antenne 18h50, temps universel avec le fabuleux Sofiane Amazian et son consultant Patrick Juillard. Vous retrouverez ensuite une deuxième émission de Radio Foot dès 21h10, temps universel avec Annie Gastier et son équipe.
Et ça promet une belle soirée parce que si je ne me trompe pas, c'était les supporters parisiens
oui,
qu'on entendait
ça.
À Londres. Il faisait déjà beaucoup
de bruit. Le
collectif
Ultra Paris.
À une heure du coup d'envoi. Foot également, Saliou, cette fois à l'infirmerie, saison terminée pour Antonio Rudiger.
Et le défenseur du Real Madrid qui s'était fait remarquer d'une façon totalement inélégante ce samedi lors du Classico contre le Barça en lançant des glaçons sur l'arbitre du match ne foulera plus les pelouses de Liga en cette fin de saison. L'international allemand a subi une intervention chirurgicale pour une déchirure du ménisque. Il espère revenir cet été.
Et puis une autre blessure toujours en foot, c'est une très mauvaise nouvelle pour un international guinéen.
Seydou Sow ne rejouera plus cette saison. Le défenseur prêté par Strasbourg a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors d'un entraînement. Une bien mauvaise nouvelle pour un joueur qui réalisait une bonne deuxième partie de saison.
Allez, le foot à la télévision, le championnat de Ligue 1 ne devrait plus être diffusé par la chaîne DAZN la saison prochaine.
La saison prochaine, oui. Dans un premier temps, ils avaient refusé de payer les 120 millions d'euros à la LFP pour arrêter en fin de saison. Le diffuseur est désormais prêt à verser une indemnité de 100 millions d'euros. La Ligue devrait, selon nos confrères de l'équipe, sonder le marché pour produire sa propre chaîne et donc transmettre à l'écran son propre produit.
Voilà pour le foot. Le tennis quelques résultats du côté du Masters 1000 de Madrid.
Oui, et la situation qui est revenue à la normale dans la capitale espagnole. Rappelez-vous ce qui s'est passé la journée d'hier. Par conséquent, la balle jaune rebondit de nouveau sur la terre battue. Alexander Zverev, numéro 1 mondial, s'est fait sortir par l'Argentin Cerundolo, 20e mondial en 2-7, 7-5, 6-3. Et un peu plus tôt dans la journée, l'Italien Lorenzo Musetti, 11e mondial, s'est offert le Grec Stefano Tsitsipas, 18e mondial, toujours en 2-7, 7-5, 7-6.
Eh bien, merci, salut Diouf, pour l'actualité sportive de ce mardi, 14h20 à Washington. Demain, cela fera 100 jours que Donald Trump a repris le pouvoir aux États-Unis. 100 jours, et bien que le monde est bouleversé par ce second mandat mené tambour battant. Ce sera une journée spéciale demain mardi sur Radio France Internationale, de multiples rendez-vous sur ce sujet. Mais évidemment, il n'y a pas que la Radio Mondiale qui traite cette actualité. Bonsoir Camille Pagella.
Bonsoir.
Journaliste au quotidien suisse Le Temps. Alors vous êtes penché dans un long article alimenté d'ailleurs de très belles infographies sur ces 100 jours mené donc à vitesse grand V. D'abord sur le, entre guillemets, quantitatif, puisque vous l'évoquez dans le début de votre article, est-ce que, en termes de nombre de décisions, on peut dire que Donald Trump a déjà fait plus que ses prédécesseurs sur ses 100 premiers jours?
Alors oui, depuis 1937, en tout cas, en 100 jours, il a signé plus de décrets présidentiels, il a pris plus de décisions que tous auparavant. Voilà, le seul qui arrive juste derrière, c'est Roosevelt, pendant ses deux mandats, qui avait pris énormément de décisions aussi, mais là, c'était une époque complètement différente.
Qu'est-ce qui ressort de ces décisions? Si vous deviez en tirer un premier enseignement.
Premièrement, on a vu dès le début, les premiers 100 jours, il s'est vraiment attaqué à son administration, où il y a eu énormément de licenciements, de coupes de budgets fédéraux. Et puis ensuite, il s'est aussi beaucoup attaqué à la recherche, à la science, à l'éducation supérieure. Et tout ça avec, évidemment, l'immigration, qui était un des thèmes phares de sa campagne et qu'il a mis en place, tout un programme, justement, de renvoi. Voilà. C'est un peu ses principaux chevals de bataille.
Et comment il a justifié toutes ces décisions?
Alors, par exemple, pour l'immigration, il se base sur une loi qui date de 1798. Et cette loi-là, donc l'Alien Enemies Act, c'est une loi qui était prévue à l'époque, c'est une loi qui remonte il y a très longtemps, à l'époque où les États-Unis étaient une des seules démocraties des environs, et qui prévoit de donner au président un pouvoir supérieur pour détenir ou pour enfermer des étrangers en cas d'invasion ou en cas de guerre. Et cette loi-là, elle est utilisée que trois fois dans l'histoire américaine, pendant une guerre en 1812, si je me souviens bien, pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. On s'en souvient bien, à l'époque, ça avait permis au président d'enfermer des citoyens japonais dans des camps de concentration.
Ce que vous nous dites, c'est que finalement, Donald Trump va jusqu'à chercher, entre guillemets, des niches, des législations parfois qui sont très anciennes pour justifier le spectre des décisions qu'il prend.
Oui, alors tout ça, c'est évidemment parce qu'il a peur des conséquences. Tous les décrets qui sont pris par les présidents, donc ces executive orders, ils peuvent être attaqués par la justice et retoqués. Et donc, du coup, il vaut mieux avoir une législation derrière pour pouvoir se permettre dans ce cas-ci, déporter des étrangers sans leur donner la possibilité de passer par les processus réguliers. Et donc, du coup, là, ça lui permet justement de se reposer là-dessus et de pouvoir, face aux contestations judiciaires, avoir un argument juridique.
Mais justement, à quel point est-ce qu'il ne reste pas attaquable, Donald Trump? Vous l'écrivez dans votre article du temps, il y a plus de 200 poursuites qui ont été engagées contre des décisions de l'administration Trump. Est-ce que la justice peut constituer un contre-pouvoir à Donald Trump, voilà 100 jours après le début de son mandat?
Alors, c'est même le seul aujourd'hui réel contre-pouvoir, parce que le Congrès est complètement aux ordres du président, le Parti républicain est complètement soumis à Donald Trump, et donc il reste la justice avec, effectivement, vous l'avez dit, c'est plus de 200 contestations judiciaires. Donc, c'est soit des juges qui se sont auto-saisis, soit des plaintes qui ont été déposées. Mais on voit que malgré les contestations judiciaires, malgré les ordres de la Cour suprême qui avait demandé, par exemple, le retour d'un Salvadorien qui avait été déporté au Salvador dans ses grandes prisons de manière illégale, qui a demandé à faciliter son retour, on voit que Donald Trump fait la sourde oreille. Et là, on arrive à la limite, évidemment, du système, des trois pouvoirs, et on s'approche d'une crise constitutionnelle.
On peut imaginer que Donald Trump ne se conforme pas aux décisions de justice?
Alors, c'est déjà arrivé, avec Roosevelt d'ailleurs, mais il y en a toujours un qui cède à un moment.
La démocratie américaine est-elle menacée? C'est à la fin de votre article pose cette question.
Alors, d'après les chercheurs qu'on a interrogés, ils sont la démocratie, elle est menacée en général hein, sur la planète. C'est ce qu'ils nous ont tous répondu, mais que les États-Unis ont quand même quelques armes, hein, notamment une constitution extrêmement courte et extrêmement souple, avec des mots très généraux qui leur permet d'une interprétation très large et qui leur permettent justement d'avoir gardé la même constitution après l'esclavage, après la ségrégation, etc. Donc toutes ces système qui est assez souple, beaucoup espèrent que ça permettra qu'on arrivera à raisonner Donald Trump et à le ramener à un fonctionnement plutôt plus ordinaire.
Est-ce que cela veut dire que malgré le bouleversement, l'Amérique peut se remettre de Donald Trump?
Oui, c'est ça, c'est que 100 jours de présidence, aussi chaotique qu'il soit, pour l'instant, on pense qu'ils n'arriveront pas à mettre en péril plus de 250 ans de démocratie, et que surtout dans un an et demi, maintenant en novembre 2026, il y aura des élections de mi-mandat, que ces élections sont souvent remportées par l'opposition, et d'autant plus dans ce cas-là où les sénateurs et les députés républicains sont quand même soumis à la pression de leurs électeurs dans leur propre circonscription.
Comment Donald Trump a pris le pouvoir en 100 jours et met au défi la démocratie américaine. C'est le titre de cet article donc, que l'on retrouve depuis un peu plus d'une heure sur le site internet du journal suisse Le Temps. Merci beaucoup Camille Pagella.
Merci beaucoup.
Alors les 100 jours de Donald Trump sont également ceux de son vice-président, Jed Evans, qui est bien davantage dans la lumière que ses prédécesseurs. On se souvient qu'il n'avait pas hésité, lors de la réception extrêmement tendue du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, à prendre la parole à plusieurs reprises. Par sa présence populaire, Jed Evans incarne la volonté de l'administration Trump de représenter une Amérique dite oubliée. On va prendre la direction du fief familial de Jed Evans, alors non pas l'Ohio, où le vice-président américain a grandi, mais plutôt l'est du Kentucky, dans les montagnes des Appalaches, où sa famille est originaire. Région pauvre et reculée, où le destin de Jed Evans eh bien, suscite la fierté des habitants, qui espèrent désormais des retombées économiques. C'est un reportage à Jackson, signé Edouard Maille.
Dans ces vallées qui s'enchaînent, recouvertes de végétation, Jessica Ellis rentre chez elle dans sa maison au bord de cette route sinueuse, à quelques kilomètres de l'ancienne demeure des grands-parents de Jed Evans et de leur cimetière familial. Jessica, électrice de Donald Trump, explique que tout le monde ici se réjouit de l'arrivée de Jed Evans à la vice-présidence.
Il comprend la situation ici. Il va pouvoir aider cette région d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer.
Jed Evans a raconté son histoire familiale entre ces montagnes du Kentucky et les plaines désindustrialisées de l'Ohio, à quelques centaines de kilomètres au nord. Dans son livre « Hillbilly Elegy », il y revendique fièrement ce terme de « hillbilly » qui peut se traduire par « pecno », terme péjoratif employé pour désigner les gens de cette région plus isolée.
Il y a un cliché qui dit qu'on serait pieds nus et stupides, mais comme vous pouvez le voir, je porte des chaussures. Il y a aussi l'idée qu'on ne compte pas, mais JD a prouvé qu'on n'est pas stupide.
28% des habitants de ce comté vivent sous le seuil de pauvreté, alors que la moyenne nationale est de 12%. Dans le centre du village, la vitrine d'une épicerie affiche un drapeau « Trump, sauver l'Amérique à nouveau ». Le propriétaire, Kenneth Patrick, en attend également beaucoup du vice-président.
Il va peut-être nous aider à ramener des usines ici dans le comté de Breathitt. Je l'espère. On a besoin de croire. On est en train de devenir un village fantôme et c'est effrayant.
Ici, Jed Evans, c'est l'espoir d'être mieux représenté et écouté à Washington, comme l'explique Stephen Bowling, le directeur de la bibliothèque publique et historien du comté.
Pendant des générations, on a permis aux autres d'écrire notre histoire. Les gens venaient dans les montagnes pour des pratiques économiques extractivistes. Ils ont pris le charbon, puis sont partis. Ils ont pris le bois, puis sont partis. Comme pour le sel, tout ça a retiré le pouvoir, la stabilité économique et la richesse. Donc maintenant, la possibilité d'avoir une voix à Washington est importante pour les habitants.
Avant son investiture, Jed Evans est revenu ici, confirmant pour les habitants le dicton local. Le garçon peut quitter la montagne, mais la montagne ne peut pas quitter le garçon. Edouard Maille Jackson dans le Kentucky, RFI.
Et retour à Paris 20h29. Notre session d'info, évidemment, elle se poursuit sur Radio France Internationale. Bougez surtout pas. Dans un instant, il est à mes côtés. Il s'appelle Zéphirin Quadio. Ce sera la première édition de l'Afrique Soir. Et puis dans 20 minutes, car cette première édition de l'Afrique Soir, elle va être raccourcie, mais c'est pour la bonne cause. Soirée foot ce soir. Première demi-finale allée de la Ligue des Champions. Arsenal PSG à suivre en direct et en intégralité.
Tout à l'heure sur RFI.
D'où vient la conscience?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Que nous apprennent les neurosciences sur la conscience? Pourquoi la célèbre formule de Descartes, « je pense, donc je suis », est à reprendre mais à l'envers, en sens inverse, « je suis, donc je pense ». Et qu'est-ce que ça implique? Jusqu'où nous entraînera l'étude de la conscience?
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.